BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons au secrétariat général à la planification écologique avec Antoine Pélion, l'homme derrière tous les...
BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons au secrétariat général à la planification écologique avec Antoine Pélion, l'homme derrière tous les grands plans climatiques du pays. L'exécutif est accusé de faire passer la dette budgétaire avant la dette écologique et d'avoir pris trop de retard dans l'adaptation du pays. Entretien à bâton rompu avec l'éminence verte du gouvernement. Puis nous parlerons transition climatique dans le secteur des travaux publics, un secteur qui consomme beaucoup de ressources et qui est par définition très exposé au changement climatique. Nous serons avec deux dirigeants qui montrent la voie dans ce secteur, Alexandra Mathiolon chez Serfim et Jean Vidal chez Charrier. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, avec une surprise cette semaine, puisqu'Antoine nous emmènera en Inde. BFM Climat, on y va. Adaptation, décarbonation et bien sûr budget 2025, le gouvernement multiplie les plans, mais sont-ils à la hauteur des enjeux climatiques? Réponse d'Antoine Pélion qui nous a reçus il y a quelques jours au secrétariat général à la planification écologique. Bonjour Antoine Pélion.
Bonjour.
Merci de nous recevoir ici chez vous, secrétariat général à la planification écologique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, puisque vous êtes plutôt dans l'ombre de ce que fait le gouvernement, vous êtes un des acteurs clés de la transition écologique du pays, puisque c'est vous et vos équipes qui concevez depuis des années tout le plan de transition climatique du pays. Ça veut dire très concrètement les plans d'adaptation et de décarbonation qui ont été présentés ces dernières semaines. On va évidemment y revenir avec vous. On va commencer par l'adaptation, Antoine Pélion, parce que je pense que ce sont les images qui ont le plus frappé le grand public, ce qui s'est passé à Valence. Évidemment, c'est un drame humain. C'est aussi un choc pour l'économie, bien évidemment, on le comprend bien. Sauf qu'aujourd'hui, en France, aucune entreprise n'a de plan concret d'adaptation. Et ne serait-ce même que quand vous en parlez avec elle, personne ne sait précisément ce que ça veut dire l'adaptation. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors bonjour à tous. L'adaptation, c'est un sujet effectivement très structurant et qui peut impacter l'activité économique des entreprises, comme on le voit à Valence. On l'a vu aussi en France, on l'a vu dans les inondations des Hauts-de-France par exemple, ou dans d'autres territoires. Alors, les entreprises ne font pas rien sur le sujet, et donc du coup, beaucoup s'y préparent déjà. Pour autant, une vision complète sur tous les enjeux, là, il y a beaucoup de progrès encore à faire. Si on regarde un tout petit peu de recul, regardez vraiment concrètement ce qu'il va se passer demain, c'est à la fois des sujets, bien sûr, d'aléas climatiques extrêmes, donc les inondations, mais aussi les sécheresses, mais aussi les gels. Et on voit que là, le sujet du monde de l'agriculture est déjà aux premières loges aujourd'hui et a commencé à s'y préparer. Mais c'est aussi un changement de disponibilité de nos ressources naturelles et d'accès aux ressources. Et ça, les entreprises ont commencé à y travailler parce que c'est vital pour elles. Par exemple, l'accès à l'eau. Est-ce qu'on aura demain suffisamment d'eau par rapport à aujourd'hui ? L'accès à des ressources naturelles, par exemple, ce qu'on appelle la biomasse, c'est un point de vue techno, mais qui est concrètement les productions agricoles, les forêts, etc., qui sont utilisées pour faire des bioénergies, pour faire des biomatériaux. Et ça, l'accès à la ressource va évoluer, et c'est très structurant pour ces entreprises-là.
La prise de conscience, elle ne date que de maintenant, elle est très récente.
Alors
que la décarbonation, ça y est, c'est rentré dans la tête des boîtes. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? On a pris du retard, non, manifestement ?
Alors, on a pris un peu de retard, effectivement. Je pense que les gens se rendent compte de ce qui est des problèmes d'aménagement et de risques naturels quand ils arrivent. Pour autant, le côté systémique, le sujet de la chaleur, l'accès aux sites, comme je disais, ces sujets-là, il y a un peu moins de prise de conscience et c'est maintenant du coup qu'il faut y aller.
Pour prendre conscience, donc vous avez dévoilé, le gouvernement a dévoilé, mais sur la base de vos travaux, votre plan national d'adaptation. Il a le mérite d'exister et de rendre public effectivement ce à quoi on doit se préparer, c'est-à-dire un réchauffement du pays de 4 degrés d'ici à la fin du siècle et les conséquences très concrètes, territoire par territoire. Donc c'est un cri d'alarme que les gens entendent. Sauf que dans ce plan, beaucoup vous reprochent qu'il n'y ait pas de moyens, pas de contraintes et pas d'échéances. Comment est-ce que votre plan, aussi brillant soit-il, peut se réaliser sans ces éléments-là ?
Alors, plusieurs choses sur ce point-là. Donc déjà, premier point, c'est que c'était important de se dire concrètement à quel scénario on se prépare. Donc là, c'est les fameux 4 degrés. 4 degrés, c'est quoi concrètement ? C'est le réchauffement mondial de 3 degrés qui fait qu'en France, c'est un peu particulier parce que c'est le climat océanique et donc les 3 degrés deviennent 4.
On se réchauffe encore plus.
On se réchauffe encore plus, encore plus vite. Ça, c'est un point qui est important. Et donc se dire, pour que tous les acteurs se protègent de la même chose, c'était important d'avoir cette note de référence. Typiquement, quand on fait des travaux sur une zone portuaire, si jamais l'opérateur du port, il se prépare à 3 degrés, et par contre que ceux de la route qui va au port, se prépare à un scénario inférieur, on a à la fin un truc qui est mal foutu, mal fichu, ouais, ouais, mal organisé. Donc, c'est pour ça qu'il fallait ce scénario de référence-là.
Okay.
Alors après, sur les questions de... il faut bien voir que les actions, elles dépendent en fait des différents acteurs. Ce n'est pas l'État qui fait tout là-dedans. Il y a un énorme enjeu qui va commencer maintenant de regarder territoire par territoire, comment est-ce qu'on décline cela. Ça veut dire concrètement. Ce n'est pas le plan national qui va définir tout au niveau super local. Donc il y a un travail d'appropriation, à la fois par les collectivités, à la fois aussi par les entreprises, ouais, et un certain nombre de ménages.
Mais c'est encore devant. Il n'y a pas d'échéance. Vous ne dites pas, rendez-moi une copie dans 6 mois, dans un
alors,
an, qu'on avance.
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fixé que dans le cadre des COP territoriales, alors les COP, c'est rassemblement de toutes les parties prenantes à la maille régionale. On l'a fait en 2024 pour l'atténuation, la baisse des gaz à effet de serre. Ça a abouti à un plan d'action concret. Et donc, on a annoncé qu'on le ferait en 2025 sur l'adaptation. Donc, concrètement, tous les territoires vont avoir en 2025 à travailler leur feuille de route territoriale fine sur l'adaptation pour avoir un plan d'action pleinement opérationnel à la fin de l'année 2025.
Pour que tout le monde se bouge, pardonnez-moi l'expression, est-ce que vous avez chiffré le coût de ne pas s'adapter ? Est-ce qu'on connaît ce chiffre ?
Alors, on a plusieurs estimations. Donc, on a des choses qui sont très précisément définies, qui sont quels sont les coûts des dommages assurables ou des indemnisations que peut donner l'État. Et ça, on a à la fois des données historiques et on montre que ça augmente. Par exemple, quasiment 1,5 milliard pour l'épisode de gel qu'on a connu il y a quelques années, quasiment 700 millions d'euros pour l'épisode d'inondation des Hauts-de-France. Et puis, il y a après tous les impacts économiques indirects. Ceux-là, on n'est pas capable de les compter et de les mesurer très finement. On sait les estimer. Il y a les études qui disent que ça pourrait coûter jusqu'à 10% du PIB à l'horizon de la fin du siècle, ce qui est massif.
Évidemment, 10% du PIB, même on a du mal à imaginer ce que c'était. On n'a pas perdu autant au moment du Covid. Donc c'est colossal. C'est l'ADEME, hein, mais moi, je crois qu'elle a donné ce chiffre. Et alors, à l'inverse, ça coûterait combien de s'adapter ? Parce que la décarbonation, France Stratégie a fait un beau boulot là-dessus. Pisani, Ferry et Selma Mahfouz disent qu'en gros, c'est un peu plus de 80 milliards par an pour atteindre nos objectifs de décarbonation à 2030. L'adaptation, ça coûterait combien ?
Alors, en fait, le plan d'adaptation, c'est la bonne nouvelle, c'est que les investissements, c'est à peu près les mêmes pour s'adapter et pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, là, dans les bâtiments, dans les transports, développer des transports en commun, investir dans l'infrastructure. À partir du moment où on l'investit pour baisser les émissions, dès le début, on peut faire les bonnes normes pour éviter du coup d'être plus résilient aux dommages, aux risques naturels, donc du coup s'adapter. Pour les logements, s'isoler l'hiver, c'est aussi améliorer le confort d'été et donc la climatisation et l'isolation pour se protéger des grands épisodes de chaleur. Donc les investissements, ils sont à peu près communs. Donc ce qu'il faut regarder finalement...
Pas toujours quand même, hein. On ne parle pas toujours la même chose.
Alors il y a quelques écarts. Par exemple, il y a des sujets très spécifiques. Par exemple, les sujets de retrait gonflement des argiles qui font des fissures dans les maisons. Ça, c'est un sujet très spécifique à l'adaptation. Et c'est pour ça que le fonds Barnier... qui permet de prévention a été un peu augmenté et qui permet notamment de pouvoir toucher ça. Mais j'insiste que le sujet, notamment de l'adaptation pour les bâtiments, il se traite aussi avec les assurances. Alors le sujet, c'est de se dire comment est-ce que, avec l'ensemble des, que les primes d'assurance aujourd'hui, elles servent aussi à financer des travaux d'adaptation en amont et pas uniquement à indemniser des dommages. Et ça, les assureurs, ils y gagnent là-dedans. Parce que si jamais ils font pas ces travaux d'adaptation avec les personnes concernées, bah du coup, les dommages, l'indemnisation de demain sera plus importante. Donc c'est pas uniquement la subvention qu'il faut regarder, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient finalement au plan d'adaptation. Les gros montants, les gros investissements, on en revient beaucoup au plan de décarbonation tel qu'il a été estimé notamment par Jean Pisani Ferry, ouais, et Selma Mahfouz. Donc c'est l'ordre de grandeur que vous citez, 60 milliards supplémentaires par an, ouais, en net à l'horizon 2030. C'est ça l'ordre de grandeur. Ouais. Et ça, il faut le rapporter à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on investit à peu près 120 milliards public et privé au total sur la baisse des émissions. Et donc, il faut faire plus 50% à peu près.
Faire en plus.
Voilà.
Donc là, on parle de dizaines, de centaines de milliards. Sauf que vous le saviez mieux que moi, vous êtes rattaché à Matignon. On a trop déficité de dettes. Comment est-ce qu'on fait sans argent ?
Alors là, c'est un point très important. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, ce n'est pas augmenter uniquement les investissements publics. On parle des investissements totaux, publics et privés, sur lesquels il y a une partie, sur lesquels il y a de la rentabilité économique. Et donc, du coup, là, par exemple, les énergies renouvelables, les investissements se font, il y a une rentabilité économique sur les projets d'investissement, donc on n'a pas besoin de subventions totalement massives.
Vous l'avez vu comme moi, il n'y a qu'un tiers de ces investissements qui sont rentables sans argent public. Là aussi, ce sont des travaux de France Stratégie.
Alors, qu'on a
donc, deux tiers de tout ce dont on parle n'est pas rentable sans argent public.
Alors,
donc, on vous attend aussi.
Qu'on a complété un peu, c'est-à-dire que, du coup, quand on regarde finement les choses, il faut un peu distinguer trois paquets. Il y a des sujets sur lesquels c'est à peu près un tiers des baisses. On a besoin d'investissements publics parce que c'est les infrastructures, par exemple, sur lesquelles il n'y a pas de rentabilité. Et après, les deux tiers restants, il y a D'une part, France Stratégie a calculé sans aucun dispositif d'accompagnement quel sujet sur lequel il y avait de la rentabilité ou pas. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que sur les deux tiers, il y a à peu près un tiers sur lequel on peut, il y a des plans d'affaires sans subvention qui fonctionnent et donc du coup, on peut y aller. Et l'autre tiers, il y a la rentabilité économique, je dirais, théorique, mais il y a des sujets de capacité technique et financière pour que ça marche bien. Et donc là, ce n'est pas forcément mettre des subventions, c'est mettre des dispositifs d'accompagnement d'appui technique ou alors des façons aussi d'aide au plan de financement, des avances remboursables, par exemple, dans certains cas, ou la garantie sur un certain nombre de prêts. Et donc ça, c'est le travail qui est en cours pour affiner quels sont les outils qu'on va utiliser pour sécuriser ces investissements-là.
Donc vous n'êtes pas inquiet pour le financement? Parce que c'est ça, en ce moment, dont l'écosystème parle beaucoup, c'est on a du mal à financer les projets.
Non, pour être très clair, aujourd'hui, on n'a pas encore la solution pour pouvoir financer la totalité. Je dis juste qu'il n'y a pas forcément d'impasse, et donc il faut qu'on travaille les différents outils de financement.
C'est important. Pour vous, on n'est pas dans une impasse.
Je pense qu'on peut trouver un chemin. Ouais. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore bien défini. Donc du coup, si vous me demandez est-ce que je suis inquiet, oui, je suis encore un peu inquiet aujourd'hui. Pour autant, est-ce que c'est bouché, bloqué définitivement? Non. Et là, il y a des pistes très sérieuses qu'on travaille. Donc à la fois débloquer l'investissement rentable. Et là, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important de l'avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'il est rentable que ça se fait concrètement. Aujourd'hui, il y a toute une série d'investissements qui marchent sur le papier, qui ne sont pas délivrés aujourd'hui. Ouais. Et donc, il faut qu'on y aille à fond.
Parce que
souvent, c'est des acteurs un peu diffus, c'est un très grand nombre d'acteurs. Alors, généralement, quand c'est des grosses entreprises que c'est concentré, ils passent à l'acte globalement. Ouais. Quand c'est très réparti sur l'ensemble des ménages, par exemple, ouais. Typiquement, quand je suis un ménage un peu aisé pour changer sa chaudière ou faire une rénovation de ma maison, bah, du coup, c'est possible. Changer sa chaudière, c'est rentable. Pour le coup, est-ce que tous les ménages le font? Non, pas aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Donc il faut vraiment accélérer sur déclencher tout ce qui est rentable aujourd'hui. Après, deuxième bloc, c'est vraiment continuer sur dérisquer finalement. Et donc comment est-ce qu'on accompagne techniquement, financièrement, sans forcément mettre beaucoup de subventions, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir déclencher les volumes. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis le dernier, c'est accompagner fortement nos communs, les infrastructures de transport, d'énergie, etc. Et accompagner aussi les plus modestes, les précaires. Et ça, on a besoin de subventions. Elles existent aujourd'hui. Il y a quand même 40 milliards sur la table par an, du coup, public qui sont de l'État pour pouvoir accompagner cela. Et ça, il faut qu'on arrive à augmenter dans le temps progressivement et à le stabiliser.
Voire à ne pas baisser, comme on le voit dans le budget actuel. Merci. Merci beaucoup, Antoine Payon, de nous avoir reçus ici,
Merci.
Secrétaire général à la planification écologique. Merci.
Retour en plateau et on passe maintenant au travail en équipe dans le secteur des travaux publics. En équipe avec deux dirigeants d'ETI qui ont engagé la transition climatique de leur entreprise et de leur secteur. Bonjour Alexandra Mathiolon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Serfim du côté de Lyon. Et avec vous Jean Vidal, bonjour.
Bonjour Thomas Asportas.
Merci d'être là. Bravo, vous avez bien appelé mon prénom. Vous êtes le président du directoire de Charrier. Vous, c'est du côté de Nantes. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de BFM Climat. Vous êtes là parce que vous êtes deux dirigeants assez avancés dans la transition climatique du secteur des travaux publics et les défis ne manquent pas. Dans ce secteur, on va en parler pendant une dizaine de minutes. Je commence avec vous, Alexandra Mathiolon. Très concrètement, quelle transition climatique vous avez mis en place dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement?
Alors déjà, cette transition, elle a démarré de longue date avec un engagement notamment avec le Pacte mondial de l'ONU, qui reste pour moi un référentiel mondial important. Et surtout, il s'est renforcé avec notre implication dans la Convention des entreprises pour le climat, qui a apporté vraiment ce niveau de radicalité, d'engagement en allant sur des modèles économiques régénératifs dont je reparlerai. Ouais. Et très concrètement, dans l'entreprise qui est déjà très diversifiée, donc qui est vraiment, nos métiers sont de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Donc on est dans les travaux publics, mais on s'est aussi tourné vers les enjeux de nos clients en termes de renforcement des infrastructures. Donc là, on touche à l'adaptation en termes environnementaux, sur le recyclage, la dépollution et puis en termes aujourd'hui d'énergie renouvelable. Donc on a développé nos métiers et puis aussi transformé la manière de faire avec un certain nombre d'actions.
Mais alors, justement, il faut que vous nous disiez un petit peu quel type d'action. Puis je rebondis sur le mot que vous avez employé, des actions radicales. Qu'est-ce que vous avez fait de radical chez Serfim?
Parce
que le changement climatique est radical.
Effectivement, le changement climatique,
chez vous, alors
il est radical, il est très concret et très réel. Mmh. Alors pour nous, c'est déjà évidemment transformer la manière de voir nos métiers et la manière d'aligner notre métier avec notre raison d'être. Et pour ça, c'est vraiment poser nos missions. Et aujourd'hui, on répond à 6 enjeux majeurs. La transition énergétique, la ressource en eau, qu'il faut absolument préserver pour moi, limiter l'épuisement des ressources, régénérer la biodiversité, renforcer la résilience de nos infrastructures aussi, on le voit avec ces nombreux aléas climatiques, et puis aussi utiliser la technologie au service des transitions. Pas la technologie pour la technologie, mais vraiment mettre cette technologie au service de ces enjeux-là. Et pour moi, la radicalité, elle se fait dans la manière déjà de faire notre métier, comment on la transforme, déjà en mesurant le plus correctement possible nos bilans carbone aujourd'hui, mais aussi en transformant nos process, en électrifiant nos usages au maximum, avec notamment dans nos métiers du recyclage qui sont assez énergivores, en solarisant au maximum nos sites et en travaillant à des solutions énergétiques en lien entre les deux avec des nouveaux modèles économiques, en changeant la mobilité aussi, avec de l'électrique, des carburants alternatifs aussi. Et puis, un des gros leviers pour nous en termes d'impact, c'est bien sûr les achats. Et pour ça, il faut travailler de manière partenariale avec notre écosystème, nos fournisseurs, bien sûr, nos clients, pour aller chercher les solutions les plus innovantes.
Bon. Ça, c'est un point qui revient souvent dans BFM Climat, justement, le scope 3, quoi, tout l'écosystème. Jean Vidal, même question chez vous, chez Charrier. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la transition climatique de votre boîte, de votre secteur, du coup ? Et idem, est-ce que vous vous définissez comme radical, comme Alexandra Mathiolon ?
Alors, ça fait longtemps que Charrier s'intéresse à la RSE et à la transition. Notre slogan « Agir pour que ça dure », il date d'à peu près 20 ans. On a, nous aussi, participé à la Convention des entreprises pour le climat. Au cours de laquelle on a élaboré notre feuille de route. Donc la transition, c'est déjà décarboner. Donc, nos objectifs, ils sont assez radicaux puisqu'on veut diminuer notre scope 1 et 2, donc les énergies, vraiment de 50%.
Vos émissions à vous, je rappelle.
Nos émissions à nous, voilà, d'ici 2030. Alors, à fin 2022...
Moins 50 ?
Moins 50 d'ici 2030.
Et vous en êtes à combien aujourd'hui ?
Alors, en 2022, on était à moins 20. À la fin de 2024, on sera à moins 35. Donc, il nous manque 15%. Ouais, on sera à moins 35. Alors, ça passe par beaucoup de choses. Évidemment, réduire les consommations d'énergie et les modes d'énergie, électrifier les flottes de véhicules, utiliser des biocarburants, produire aussi de l'énergie renouvelable. Donc, on investit dans des fermes solaires pour faire de l'autoconsommation, notamment, mais aussi sur les comportements, par exemple, l'éco-conduite. Et donc, les comportements humains peuvent impacter beaucoup les consommations de carburant. Puis on a aussi développé, par exemple, un tracteur à hydrogène. Ça, c'est une innovation Charrier. Et innover, ça fait partie de nos missions. Voilà. Donc, réduire les énergies, il faut aussi recycler. Et recycler la route, c'est un matériau qui peut se recycler à 100%. Donc, on investit beaucoup dans ces technologies. Il faut aussi parfois renoncer à certaines activités. On a abandonné nous-mêmes certaines activités, comme par exemple l'extraction de sable marin, qui représentait seulement 2% de notre chiffre d'affaires et 15% de notre bilan carbone. À la fin du mois d'octobre, on est sorti de...
Vous avez fait votre bilan carbone et vous avez vu ça.
Ouais.
Vous avez vu, c'est 15% de mes émissions, 2% du CA, donc j'y renonce.
C'est ça.
Vous avez compensé ? Vous êtes allé chercher des revenus ailleurs ?
Alors, on
vous
a compensé sur des activités beaucoup moins impactantes, comme on en parle à Pierre, le génie écologique, ou bien les réseaux, ou bien même les espaces verts et les métiers du paysage qui sont...
Il y a d'autres exemples d'activités que vous avez, de business que vous avez abandonné.
Alors, il y a aussi un projet qu'on a abandonné il y a quelques mois. C'est une installation de stockage de déchets inertes qui devait se faire sur un site où la nature avait repris ses doigts, finalement. Et quand on a fait le bilan à la fois, je dirais, en termes de biodiversité et en termes d'acceptabilité, finalement, on a arrêté le projet. On l'a abandonné.
Ouais. Très intéressant. Hein. Oui, Alexandra Mathiolon.
Pareil,
vous aussi, vous faites des croix sur du business, du renoncement, parce qu'on l'entend beaucoup dans BFM Climat, la transition climatique, c'est aussi accepter parfois de renoncer à du business.
Et effectivement, pour moi, le terme radical peut être très vertueux. Hein. C'est une forme de radicalité qui est bien sûr construite, mesurée, et c'est ce qu'on a retrouvé au sein de la CEC, c'est cet écosystème de gens radicaux dans le bon sens, de dirigeants radicaux dans le bon sens du terme, bien évidemment.
Ouais. Et aujourd'hui, courageux, quoi, c'est une manière de dire courageux.
Courageux, finalement, bon. Tout à fait. Et effectivement, nous, ça nous a poussé à développer, investir en termes de capitalistique, bien sûr, en termes de croissance externe, sur certains métiers et forcément ralentir sur d'autres et profondément, en tout cas, les transformer en allant sur la performance énergétique aussi de nos réseaux, de nos villes, de nos bâtiments et aller trouver des solutions plus innovantes pour diminuer aussi, parce que la meilleure énergie, c'est bien sûr celle qu'on ne consomme pas. Et donc, aller trouver ces solutions-là et puis aussi développer tout un business autour des énergies renouvelables, le photovoltaïque principalement, la petite hydroélectricité aussi, voilà, pour aller trouver des nouvelles alternatives plus vertueuses.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'entreprises à visée régénérative. Vous allez nous expliquer ce que vous faites là-dedans. Et pour ceux qui nous écoutent, très concrètement, ça veut dire non seulement limiter sa consommation de ressources au maximum, mais en plus, contribuer à redévelopper la biodiversité et la nature. Ça paraît... déjà, quand on arrive à décarboner, on est content. Ça, c'est vraiment un ou deux crans au-dessus. Comment ça marche ? Comment vous faites ?
Alors pour moi, la régénération, et on parle de régénérer le vivant, c'est déjà les femmes et les hommes de l'entreprise, hein, qu'on n'oublie pas, qui sont au cœur évidemment.
Oui, mais bien sûr, vous ne faites pas ça toute seule. Mais quelles actions concrètes vous faites pour relancer la biodiversité et la nature ?
Alors nous, dans les métiers des travaux publics, concrètement, on est en lien avec le sol et l'eau. Ouais. Et en fait, c'est ces deux écosystèmes, ces deux sujets majeurs en fait, qu'il faut qu'on protège. Parce que le sol est une source de biodiversité incroyable. L'eau est aussi, aujourd'hui, je trouve qu'on en parle encore pas assez, de plus en plus, bien heureusement, mais il y a un enjeu de stress hydrique et il y a un enjeu de pollution. Ouais. Donc concrètement, c'est développer des solutions pour nos usages, bien sûr, en réduisant l'impact, en travaillant des chantiers bas carbone pour mieux protéger cette terre, mais moins utiliser d'eau avec des solutions innovantes de réutilisation, mais c'est surtout accompagner les territoires et nos clients globalement sur ces solutions-là. Donc, c'est aller chercher des solutions, par exemple, de réutilisation de l'eau pour que, dans un contexte de stress hydrique, une entreprise puisse ne pas être bloquée dans son utilisation quand, évidemment, l'eau sera avant tout préservée pour la consommation des habitants et l'agriculture. Donc, c'est aller trouver ces solutions-là. Mmh. Et puis, enfin, je dirais juste que le régénératif, c'est vraiment transformer son modèle économique pour l'aligner avec l'ensemble des limites planétaires. Et les limites planétaires, ouais, elles sont complexes, elles sont de mieux en mieux connues. C'est bien sûr le climat, c'est l'eau, la biodiversité, les ressources. Et c'est finalement parfois oser sortir d'une logique volumique dans certains de nos contrats, ouais, et d'aller travailler en amont avec certains de nos clients pour aller avoir évidemment des variantes environnementales et avoir des critères environnementaux beaucoup plus forts, beaucoup plus déterminants, différenciants dans nos offres.
Jean Vidal, chez Charrier, vous faites du régénératif aussi ?
Alors, c'est toute l'ambition du travail qui est fait à la Convention des entreprises pour le, ouais, climat, c'est rendre irrésistible la bascule régénérative. Mmh. Il faut créer un
sursaut. Pareil, voilà, au-delà de l'ambition, concrètement, est-ce que vous le faites dans votre entreprise ?
Alors, concrètement, déjà, la prise de conscience, il faut un sursaut parce que ça ne suffit pas de diminuer les impacts. Il faut aujourd'hui réparer la nature. Et c'est ça, le régénératif, ben oui, c'est réparer, mmh, la nature. Donc, ça peut commencer par désartificialiser certaines zones qui ont été artificialisées. Mmh. On voit les dégâts que ça peut provoquer en termes parfois de crues, d'épisodes climatiques. Hein. On peut parfois dépolluer aussi. Puis ensuite, on va régénérer. Et régénérer, ça veut dire qu'on va travailler pour la nature et pas pour l'homme. Ça veut dire qu'on va rendre ces surfaces à la nature, dans le but de favoriser l'écoulement des eaux, la végétation, la biodiversité, la captation de
carbone. Mais donc ça, vous le faites. Vous avez des salariés chez vous qui sont payés à faire ça.
Alors, on a investi dans le génie écologique. Ce métier s'appelle le génie écologique. Et donc, on a développé ces activités. On voit que c'est un marché qui est en plein boom aussi. Et finalement, il faut aussi former nos salariés, bah oui, pour aller des anciens métiers, ceux qui construisaient peut-être avant des autoroutes aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont moins envie de le faire aussi. Il faut les entraîner vers ces nouveaux métiers qui sont quand même beaucoup plus vertueux et qui créent beaucoup de sens pour nos équipes.
Ouais. Toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cet échange. On l'a bien compris, vous êtes tous les deux investis par ces sujets climatiques. Vous dirigez des entreprises familiales. Est-ce que parfois le changement climatique vous fait peur ?
On avait cette discussion juste avant avec Jean, et effectivement, on peut avoir une forme d'éco-anxiété, notamment, je pense, liée à la question de l'adaptation climatique qu'on, ouais, a encore peu abordée. Déjà, dans la manière dont on adapte nos métiers pour nos équipes, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de canicules, il y a de plus en plus d'intempéries liées au dérèglement climatique, il y a de plus en plus d'enjeux de stress hydrique. Et à la fois, ça peut faire peur, mais pour moi, c'est aussi une source d'innovation. Et on est vraiment dans l'accompagnement de nos clients, notamment de nos territoires sur cette adaptation, avec notamment des outils développés par notre fédération professionnelle comme InfraClimat. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut trouver des solutions pour adapter nos réseaux, par exemple nos réseaux électriques aux tempêtes, comme on a pu connaître l'an dernier en Bretagne, adapter nos ouvrages d'art, nos ponts, évidemment, quand on le voit, et donc finalement aussi tout ce qui est lié à l'eau, les inondations. Donc pour moi, il y a des solutions grâce à nos métiers des travaux publics, on peut être pourvoyeur de solutions. Puis aussi, il y a tout le volet technologique dont on parle peu en matière d'adaptation climatique, en matière aussi de protection, en apportant des solutions technologiques qui vont répondre à l'ensemble de ces enjeux-là et rendre nos villes plus intelligentes et plus adaptées. Donc profondément, je pense qu'on peut trouver des solutions, et ça me donne personnellement de l'espoir.
De l'espoir. Jean Vidal, le mot de la fin pour vous en quelques secondes.
Cette éco-anxiété, on la vit tous, et je pense qu'on ne peut pas rester là-dedans. L'anxiété stérile, il faut la transformer en action positive, et c'est ça qui nous motive, je pense, tous les jours. C'est de se dire, on va participer quand même à l'amélioration des choses, même si on a tous des moments, finalement, où c'est plus difficile que d'autres. Mais on est des chefs d'entreprise, on est résolument optimistes, sinon, ouais, faut changer de métier.
Climat ou pas, très bonne conclusion. Merci à tous les deux pour votre témoignage et votre franc-parler. Alexandra Mathiolon, PDG de Serfim, et Jean Vidal, président du directoire de Charrier. On part maintenant en Inde. Je vous l'ai promis, dans le sommaire, retrouver Antoine Poincaré pour son journal du climat. Et oui, Antoine est en Inde depuis 2 semaines et on vous retrouve à New Delhi, la capitale la plus polluée au monde et qui vient malheureusement de battre de nouveaux records de pollution, Antoine.
Oui Thomas, comme vous le voyez derrière moi, Delhi, la capitale indienne, est prise dans un épais nuage de pollution. Alors c'est le résultat d'un trafic routier intense, mais aussi d'une activité de construction incessante dans cette ville aux presque 34 millions d'habitants. Puis il y a des causes conjoncturelles à cette période de l'année dans le Punjab, au nord de Delhi. C'est la saison des rotations agricoles, les agriculteurs mettent le feu à leurs récoltes. Ça génère un épais nuage de fumée, or il pleut très peu à Delhi en cette période. Il y a aussi très peu de vent, résultat les fumées s'accumulent et génèrent ce smog. Ici, c'est un problème de santé publique. La semaine dernière, on a dû fermer les écoles à Delhi. Les gens avaient pour recommandation de rester chez eux. Le problème ne se limite évidemment pas au pays. Si vous allez au Pakistan voisin, à Lahore ou Peshawar, la situation est encore pire. Ce nuage, on peut d'ailleurs le voir depuis l'espace, comme vous le voyez sur ces images. Il englobe toute la région. Ça dure ici entre 3 et 4 mois chaque année.
Et pourtant, Antoine, on continue de construire en Inde. Vous êtes rendu sur une toute nouvelle autoroute qui va bientôt relier Delhi à Mumbai.
Et oui, pour se décongestionner, le pays est en train de lancer d'immenses chantiers d'infrastructures. Pour relier Delhi à Mumbai, par exemple, aujourd'hui, il faut compter 2 heures d'avion, mais 24 heures par la route. Le ministère des Transports a donc lancé la construction d'une nouvelle autoroute flambant neuve qui permettra de relier les deux villes en moins de 12 heures. Attention cependant, sur les 1300 km, il n'y aura que 8 sorties. Il faut faire attention à ne pas la manquer. Alors j'y suis allé un lundi matin, vous le voyez, l'autoroute est encore toute neuve, il y a peu de trafic. On peut par exemple passer 30 secondes sans voir le moindre véhicule passer, c'est assez impressionnant. Alors à court terme, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le climat, puisqu'ici, beaucoup du trafic, ce sont de vieux diesels qui polluent et qui émettent du CO2. Mais à moyen terme, l'électrification va faire son chemin et ça devrait améliorer la situation. Attention cependant, l'année dernière, il ne s'est vendu que 50 000 véhicules électriques en Inde. C'est 10 fois moins que la France.
Bon, donc du retard sur les voitures, mais dans les grandes villes indiennes, on voit en revanche de plus en plus de deux roues électriques, Antoine.
Eh oui, 95% des véhicules électriques vendus en Inde l'année dernière étaient soit des scooters, soit des trois roues. Vous connaissez sans doute les rickshaws, ces petits taxis jaunes et verts emblématiques de Delhi. Eh bien, l'année dernière, 400 000 modèles électriques, les e-rickshaws, se sont vendus. Côté scooter, c'est une autre innovation qui marque ces armoires à batterie. Il suffit de venir échanger sa batterie vide contre une batterie pleine et de repartir quelques secondes après. C'est un peu comme faire le plein, mais finalement en version bas carbone. Ça marche déjà très bien dans d'autres pays d'Asie, comme à Taïwan. Une innovation qu'on peut espérer voir arriver en Europe d'ici quelques années.
Merci beaucoup Antoine pour ce journal du climat Made in India. On vous retrouve et on se retrouve tous ensemble la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat. Merci aussi à la CEC, comme toujours, pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine. Et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.